Bonjour, ce thème de la biodynamie qui nous occupe sur deux émissions est à la fois philosophique et technique. Il faut reconnaître que si on parle beaucoup, on en parle beaucoup dans le monde du vin, les ouvrages pour en déchiffrer les grandes lignes ne sont pas légion. Je souhaite bon courage à quiconque voudrait se plonger dans les conférences de Rudolf Steiner lui-même, son fameux cours aux agriculteurs et les livres techniques qui tentent de décortiquer la pratique, mais oublient parfois de rester accessible au plus grand nombre. Saluons dans ce registre un livre dont nous avons déjà parlé dans l'émission précédente, le livre de Willy Kieser, Le vin et la biodynamie manifeste, qui, comme son nom l'indique, prend résolument parti aux côtés des vigneronnes et vignerons biodynamistes. Willy Kieser, c'est le fondateur du blog devenu média, multi-support et podcast Ni Bu Ni Connu. Il signe là aux éditions Omniscience un livre utile pour quiconque voudrait en savoir plus sur la biodynamie, agrémenté de nombreuses recommandations de domaines à travers tout le territoire. Pour entendre Willy parler de son livre et défendre l'idée que la biodynamie est la voie à suivre pour sauver la viticulture, mais l'agriculture au-delà et les paysans de l'ornière dans laquelle l'agrochimie les a plongés, notre terroir et notre santé avec. Vous pouvez écouter l'épisode 46 des Sourires du Vin, le podcast de l'ami Yann Diolojan, encore un winecaster de talent. Ceci est le 91e épisode et il s'intitule « Biodynamie, place au débat ». Bienvenue dans la Terre à boire. Et donc, nous sommes toujours chez Philo de Vino, toujours chez Bruno Quenu, autour de la table. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Delso, bonsoir.
Bonsoir.
Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons au téléphone la chance d'avoir Ophélie Neyman. Bonjour. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir et merci d'avoir attendu parce que pour tout dire, on a eu des petits problèmes techniques. Ophélie, vous êtes journaliste au Monde en charge de tous les sujets qui parlent du vin d'une manière générale et cela depuis plusieurs années. J'ai envie de préciser que vous êtes le premier livre que j'ai recommandé dans ce podcast. Je crois que c'était un livre aux éditions Marabout.
Et voilà.
Le vin, c'est pas sorcier. Exactement. Voilà. Et qui a été, en ce qui me concerne, moi personnellement, le premier livre sur le vin que j'ai lu et que j'ai trouvé assez formidable parce que facile, qui permet justement cette pédagogie d'accéder facilement à cet univers qui peut paraître complexe au premier abord.
Et puis ne pas oublier Tellement Soif aussi.
Merci.
Et vous êtes évidemment compère de l'ami Antoine Gerbel dans Tellement Soif, la web TV qui parle de vin.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Et sur les réseaux, vous êtes même Miss Glouglou, si je ne m'abuse.
Voilà, du nom du blog qui m'a aidé à apprendre le vin, puisque j'avais créé un blog qui s'appelait Miss Glouglou pour apprendre le vin.
Et voilà. Alors, on est ravis de vous avoir dans la Terre à boire. On vous a invité spécifiquement sur ce sujet de la biodynamie, en particulier alors parce que vous avez déjà publié plusieurs articles sur le sujet dans Le Monde, et en particulier cet été, Le Monde a publié une grande série qui va au-delà de la biodynamie. Donc vous étiez chargé du papier sur le vin, vous allez nous en dire quelques mots.
Oui.
C'était plus généralement une série en 5 épisodes autour de Steiner et ses différentes théories. Quel était le contexte donc de cet article? Pourquoi une enquête sur Steiner maintenant? Est-ce que on a considéré à la rédaction du Monde que ses idées font un retour? Quelles sont d'actualité?
Non, ce n'est pas tellement qu'elles sont d'actualité, mais vous avez très très bien introduit l'idée de la série. L'idée d'une série, c'est qu'on choisit un thème. Et ce qui nous avait frappé avec Rudolf Steiner, c'est qu'on s'est rendu compte que, bon, quand on aime un peu le vin, on en entend parler via la biodynamie. Quand on s'intéresse à l'éducation, on en entend parler via les écoles Steiner. Quand on s'intéresse aux religions ou à la philosophie, on entend parler d'anthroposophie. Et quand on s'intéresse à l'architecture, on vous parle aussi de l'architecture de Steiner. Donc tout ça, c'est Rudolf Steiner, qui est quand même quelqu'un qui est quasiment inconnu du grand public et qui pourtant a eu une influence dans de nombreux domaines. Donc le principe de la série, c'est hors actualité, hein, parce que ce sont des séries d'été, et l'idée c'est de se détacher justement de l'actualité, alors que le monde généralement colle à l'actualité, et de traiter un thème un peu en profondeur. Voilà pourquoi on a choisi cette série-là. Et donc chaque épisode, chaque jour, on sortait un grand papier sur un des thèmes de Steiner, donc philosophie, éducation, architecture, mais aussi biodynamie.
Voilà, alors on en vient évidemment rapidement au vin avec vous. Donc, vous qui
Oui, puisque le vin, effectivement, c'est la principale, c'est le principal domaine de la biodynamie. Hein. La biodynamie, c'est pour l'agriculture en général. Mais ce qui est amusant, c'est que les vignerons représentent à peu près les deux tiers, entre les deux tiers et les trois quarts des adhérents au label Demeter, qui est le label de la biodynamie. Alors même que Rudolf Steiner ne buvait pas de vin et n'a jamais parlé de vigne dans son cours aux agriculteurs. Donc c'était intéressant aussi d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la biodynamie a été à ce point prise par les vignerons et beaucoup moins par les autres types d'agriculture.
Eh bien, c'est justement la question que je vais vous poser. Pourquoi les vignerons se sont-ils emparés de ces théories qui sont, comme vous l'avez dit, issues de conférences qui ont été données? Ben, on le rappelle, hein, Steiner, c'est fin 19e, début 20e, donc ça commence à dater.
Il est mort en 1925 et il a fait ses cours aux agriculteurs un an avant sa mort, en 1924.
Qu'est-ce qui fait que les vignerons s'emparent de ces théories?
Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, quand on regarde un peu, alors moi, j'ai pas lu le cours aux agriculteurs qui est quand même extrêmement austère à lire et très compliqué, mais après, plusieurs personnes l'ont un petit peu détaillé et en ont fait des applications plus pratiques. Mais l'idée à la base, c'était la polyculture, hein, c'était de tout mêler, c'était de voir la ferme comme quelque chose d'holistique et de vraiment encourager à faire cohabiter l'élevage, la culture, enfin, plusieurs types de cultures. Donc, pourquoi est-ce que la vigne, qui est une monoculture, a eu un tel succès, en tout cas, à rencontrer la biodynamie? Ben, je pense qu'il y a un point qui est très intéressant, c'est le terroir. La biodynamie, alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord hein, avec cette théorie, mais la théorie de la biodynamie, c'est quand même de mettre en valeur le terroir, de permettre au terroir de mieux s'exprimer. Et il faut avouer que c'est quand même plus intéressant que le terroir s'exprime pour la vigne que pour, par exemple, des carottes ou des navets.
Pourquoi on a tous pensé aux carottes au moment où vous dites ça?
C'est ça. Et puis l'autre point, c'est que ça coûte cher à produire. Quand on produit en biodynamie, il faut beaucoup plus de bras, beaucoup plus de travail, donc une masse salariale plus importante, donc des coûts plus importants. Et il est plus facile de valoriser du vin, hein, de faire monter un peu le prix du vin parce qu'on explique qu'il y a plus de travail que, encore une fois, des carottes ou des pommes de terre qui se valorisent beaucoup moins bien.
Et donc c'est le terreau parfait en fait pour exploiter cette théorie, un produit à valeur ajoutée qui est directement dans l'esprit du consommateur et de son producteur évidemment relié à la notion de terroir.
Voilà, et de qualité gustative, de qualité organoleptique, hein, on dit dans le vin, mais voilà, c'est vraiment ça, on cherche beaucoup moins les qualités organoleptiques dans d'autres cultures. Donc c'est moins valorisable et puis c'est moins explicable. Alors qu'effectivement, quand on explique la vigne et la biodynamie, si on vous dit que c'est pour faire du très bon vin, tout le monde comprend.
Alors justement, est-ce qu'à votre avis, les vins en biodynamie sont meilleurs que les autres?
Ah, alors ça, c'est un problème très complexe. Je vais essayer d'être prudente hein, parce que je ne veux pas énoncer de vérité. mais on a sorti un papier, en plus de cette série sur Steiner, on a sorti un papier très récemment dans Le Monde qui reprenait une grosse étude américaine, hein, 7 ans d'études, pour montrer qu'effectivement, les notes, quand on compile dans les guides américains et dans les guides français, dans les dégustations à l'aveugle, les vins notés, on s'aperçoit que les vins bio ont des meilleures notes que les vins normaux, que les vins conventionnels, et que les vins en biodynamie ont encore de meilleures notes que les vins bio. Alors oui, il semble clair que les vins en biodynamie sont meilleurs. Une fois qu'on a dit ça, corrélation ne veut pas dire obligatoirement causalité. Je ne dirais pas que c'est la biodynamie qui rend les vins meilleurs, mais il est certain que les vins qui sont issus de la biodynamie présentent des qualités indéniables. Moi-même à l'aveugle, je le constate. On fait beaucoup de dégustations à l'aveugle au monde, et c'est vrai qu'on se rend compte quand on a, je sais pas, 15% de vins biodynamiques dans les échantillons, dans les 250 échantillons qu'on goûte, et que dans la sélection qu'on garde, on se retrouve avec 30% de vins en biodynamie. C'est-à-dire le double, oui, ça veut dire que même à l'aveugle, en biodynamie, les vins nous semblent bons. Alors après, est-ce que c'est la patte du vigneron? Il ne faut pas oublier, encore une fois, que c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de soins, c'est beaucoup plus d'attention. Donc qu'est-ce qui joue? Est-ce que c'est le vigneron? Est-ce que c'est le soin qu'il y met? Est-ce que c'est vraiment les préparations 500, 501, 502, 503? Ça, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Est-ce que c'est le calendrier lunaire? Je ne sais pas. On n'a pas d'études poussé à ce point, puisque les seules études qu'on peut faire, ce sont des études participatives, hein, c'est ce qu'on voit à l'INRA, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, il y a Jean Masson à l'INRA qui a travaillé sur la santé de la vigne, il y a Lionel Rangard qui a travaillé de son côté, du côté de Dijon, sur la richesse microbienne du sol, Les deux démontrent que les vignes en biodynamie ont une meilleure richesse de sol et se défendent mieux contre certaines maladies et contre la sécheresse. Mais encore une fois, on ne peut pas isoler les choses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le calendrier lunaire, si c'est les préparations de Steiner ou si c'est le soin des vignerons. Et moi, je ne suis pas là pour trancher ce débat-là.
Après, bonjour Ophélie,
c'est Patrice.
Patrice
qui vous pose une question.
Après, il y a un fameux débat entre chimie organique et chimie minérale. La présence supérieure de microbes dans le sol, si on écoute les bourguignons, dit que on capte plus les minéraux, la vigne, les micro-organismes, on capte plus de minéralité. Et donc, en général, les vignerons, en tout cas en biodynamie, c'est eux qui le disent. Alors après, est-ce qu'on les croit ? On ne les croit pas. Mais ils disent qu'il y a un supplément de minéralité, de salinité lié à la présence des micro-organismes supérieurs en général. Mais donc,
c'est ce qui semblerait démontrer. On le voit aussi avec le pH du sol et le pH des vins. On le voit effectivement. Lionel Rangard, donc l'INRA de Dijon, a bien montré qu'il y avait des interactions entre les champignons et entre les bactéries. Dans un sol en biodynamique, il n'y a pas dans un sol en conventionnel, et il semblerait logique qu'effectivement ça se transmette à la plante.
Alors, vous touchez un point qui paraît aussi essentiel, c'est que si on compare la biodynamie au conventionnel, il y a déjà une forme de biais, parce qu'il faudrait absolument la comparer au bio. Parce que déjà, si on compare le bio au conventionnel, on voit, on le disait dans l'émission précédente, déjà de passer en bio, on voit les pH descendre, l'acidité revenir, la vie revenir dans la vigne. Qu'est-ce que la logique biodynamique apporterait de plus que simplement une approche déjà bio, en dehors du fait que les labels Déméter, c'est encore moins de cuivre, encore moins de soufre. Mais déjà, le bio interdit tous les produits de synthèse et n'autorise, entre guillemets, que le bio, que le soufre et le cuivre et quelques insecticides naturels qui font par ailleurs également débat.
Tout à fait. Mais on voit aussi qu'il y a des préparations qui sont beaucoup plus utilisées chez les biodynamistes que chez les vignerons bio, alors même qu'ils seraient autorisés en bio. Je pense aux décoctions, aux infusions, toutes les tisanes. Moi, j'avais interviewé des vignerons qui étaient anti-biodynamie, mais qui étaient bio depuis 20 ans et qui sont très reconnus et très salués pour la qualité de leur vin, qui me disaient, mais ça, c'est injuste parce qu'effectivement, nous, on fait, comme les biodynamistes, des préparations de tisane, des décoctions, des infusions, et on dit que c'est de la biodynamie et ce n'est pas vrai, c'est du bio. Alors, je suis bien d'accord avec vous, c'est très compliqué de savoir ce que la biodynamie apporte en plus de l'agriculture bio. Et là, hélas, je ne peux pas m'engager là-dessus. Je peux simplement constater certaines études et je peux peut-être le placer aussi d'un autre point de vue. C'est d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire d'un point de vue politique. Il y a des vignerons qui m'ont dit, quand bien même on me démontrerait que ça ne fonctionne pas, quel est le mal? Après tout, je mets de la camomille, je mets de la préparation 500-501. Est-ce que je fais du mal? Non. Alors, si ça marche pas, quelle importance? Tant que moi, j'ai l'impression que ça marche. Et là, c'est une autre réflexion. C'est pas se demander si la biodynamie est efficace, c'est de se demander si les vignerons qui la pratiquent sont bien quand ils la pratiquent.
Globalement, un biodynamiste travaille plus, mais il est plus heureux.
Oui. C'est, voilà,
qu'un vigneron en bio, c'est la conclusion.
Démontrer, voilà, c'est ça. Il y a eu des études en anthropologie sur la biodynamie. Et effectivement, on voit que les vignerons en bio et encore plus en biodynamie se sentent bien, sont heureux de pratiquer ça. Et c'est toujours la question, c'est est-ce qu'ils font du mal? On n'a pas l'impression. Est-ce qu'ils se font du bien? Oui, ça, on en est sûr. Donc, c'est Jacques Capla, qui est agronome et ethnologue, qui avait travaillé là-dessus et qui disait les astres, tout ce qui est la saisonnalité, le travail avec le cycle lunaire, ça permet d'ancrer le vigneron dans le temps. Et ça l'apaise, ça permet effectivement de se sentir plus en phase avec la nature. Est-ce que ce sont des croyances, est-ce que ce sont des rituels, finalement, peu importe, tant qu'effectivement le vigneron est heureux de travailler comme ça et que le vin est bon.
C'est effectivement un des éléments très intéressants de votre article, c'est de ce recours à l'anthropologie pour dire, mais alors d'une part, déjà un vigneron heureux, un paysan heureux, c'est déjà une bonne nouvelle.
Peut-être que ça sent dans le vin, en fait.
Et voilà, et nous on est toujours autour de cette idée de si le vin est bien un produit, une sorte de coproduction entre la nature et l'homme et qui nécessite un degré de passion, qui est pas la passion, c'est pareil, ça se mesure pas vraiment scientifiquement, et que les biodynamistes sont il se trouve que ce sont des vignerons plus passionnés encore que les plus passionnés, enfin qui font partie en tout cas de ceux qui sont le plus passionnés par leur métier, par leur terroir, par le soin de leur vigne. C'est pas très étonnant qu'à la fin, au bout de la ligne, on trouve des vins exceptionnels.
C'est ça. Et puis, il y a encore un autre aspect, c'est l'autonomie qu'ils gagnent. Parce que souvent, quand on est en biodynamie, on se forme les uns les autres. Il y a une bonne circulation de l'information entre les agriculteurs en biodynamie. C'est toujours cet ethnologue Jacques Capla qui me disait... Lévi-Strauss dit qu'une société, par définition, fonctionne. On ne peut pas dire, c'est une tautologie de dire qu'une société fonctionne, puisque sinon ce ne serait pas une société si elle ne fonctionnait pas. Et la société des biodynamistes fonctionne, parce qu'ils se transmettent l'information, ils se transmettent des pratiques, ils se transmettent des savoirs. Alors, est-ce que ce sont des savoirs vérifiés scientifiquement? C'est encore un autre débat. En tout cas, ils se les transmettent, et surtout, ils font moins d'achats à l'extérieur, parce que quand ils font des préparations, ils les font entre eux, ils les achètent entre eux, donc ils sont moins dépendants du commerce extérieur, et ça, là encore, ça participe au plaisir, on retrouve une autonomie. Les gens, enfin, les vignerons biodynamiques disent, voilà, on est libre de nos choix, donc c'est très important aussi, cette dimension-là.
Ophélie, on est en train de... Oui, on est assez d'accord avec vous sur ce point. Dans cette émission, on déguste des vins pendant qu'on discute avec les invités. Alors malheureusement, vous n'êtes pas avec nous.
Je suis désolée.
Non, je vous en prie. On a versé dans les verres un vin qui est relativement connu pour son étiquette de biodynamie. C'est un vin de Savenières. Ça s'appelle le Clos de la Coulée de Serran. Là, c'est un millésime 2018. Est-ce que vous connaissez ce vin et qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, bien sûr, je connais ce vin.
Oui, ça, je sais. Oui.
Non, c'est un excellent vin. Alors, effectivement, ça fait partie des vins qui s'en fait connaître. Hein. Nicolas Joly, c'est un des pionniers de la biodynamie et c'est probablement l'un des vignerons les plus prolixes sur le sujet, qui a créé beaucoup de débats.
Un gourou, on pourrait dire.
Oui. On pourrait, enfin, je sais
c'est
pas
ce qu'on lui reproche,
prendre
en tout cas
la définition de gourou, mais effectivement c'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à parler des ondines et des sylphides pour expliquer la biodynamie, qui parle vraiment des êtres célestes, voilà, exactement, des êtres supérieurs et pour expliquer les énergies. Alors là, après, il y a plusieurs écoles de pensée, c'est-à-dire que soit on adhère pleinement et on considère la biodynamie comme un tout, tel que l'a énoncé Steiner, puisque ça, c'est vraiment collé au plus près de la pensée de Steiner, hein. Tous ces êtres suprêmes qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Il y a ceux qui pratiquent la biodynamie sans croire à tout cela, et il y a eu ce fameux débat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut pratiquer la biodynamie sans croire aux salamandres, aux sylphides, aux ondines, aux gnomes qui permettent d'alimenter l'énergie. C'est effectivement un débat qui est compliqué à trancher, parce qu'il y a des gens qui vous diront « mais non, moi je pratique la biodynamie parce que j'ai l'impression que ça marche », mais sans me référer du tout aux croyances de Steiner, et d'autres qui vous diront « oui, mais vous ne pouvez pas pratiquer la biodynamie si vous ne croyez pas à Steiner, puisque c'est l'essence de la biodynamie ».
C'est un tout, c'est ce qu'on comprend bien quand on lit votre papier, encore une fois, c'est une vision en plusieurs catégories. Les pragmatiques qui disent j'ai l'impression les meilleurs vins que je goûte sont en biodynamie, j'ai essayé dans mes vignes, je constate que ça fait du bien, je continue dans cette voie. Et après,
c'est ça, c'est la plupart des témoignages que j'ai eu tout de même, hein. Oui, ça, c'est la grosse majorité.
Voilà, et puis il y a courant théorique, ouais. Il y a les radicaux, ou je sais pas si c'est le bon terme pour les nommer, mais ceux qui sont
les théoriciens,
un peu théoriciens, Nicolas Joly en est un peu le fer de lance.
Moi, ouais. J'ai un vrai doute sur l'authenticité des croyances de Nicolas Joly, honnêtement. Est-ce que c'est quand même pas un personnage qui se crée plus que des croyances qu'il a vraiment? Je me pose la question quand même.
Dans la gourouisation, il y a une part marketing, hein, je veux dire, là-dessus. Après, il y a des gens qui vont au-delà de ça. C'est-à-dire, si vous allez chez au-delà de la biodynamie, après, on a la cosmoculture. Si vous allez chez un Alain Viret, par exemple. Donc là, c'est plus un article aussi dans la RVF qui parlait des sorciers du vin, qui parle notamment de différents sujets, mais on peut parler aussi d'Amoreau, Château-le-Puy, hein, qui a une pierre centrale et six dolmens, enfin une espèce de mini Stone Age au milieu de son domaine, qui attire les énergies, selon lui, du cosmos et qui résonne, on va dire, à 1000 mètres alentour. Donc au-delà de la biodynamie, il y a effectivement un courant qu'on pourrait qualifier d'ésotérique, quand même, globalement. Oui. Et au-delà de la biodynamie, il y a aussi des gens, type Alain Viret, qui parlent de cosmoculture, donc beaucoup sur les énergies, la position feng shui des chais. Il y a des pierres qui renvoient les choses. Donc, il y a un courant pragmatique, un courant ésotérique.
Et puis, il y a un courant, vous disiez marketing, mais qui est réel, sans forcément que ce soit péjoratif. On sait très bien que la biodynamie permet de vendre plus cher, de monter les prix, et puis aussi est synonyme d'une certaine qualité. C'est-à-dire que la plupart des dégustateurs de vin sont assez d'accord. Il y a beaucoup de vins en biodynamie qui sont gustativement formidables. Et il y a des vignerons qui sont en bio et qui ne sont pas satisfaits du bio parce qu'ils savent très bien que c'est un cahier des charges qui est quand même assez laxiste et qui permet à certains industriels de faire du bio et qui veulent se détacher de ça et qui voient la biodynamie comme une façon de montrer son excellence, en tout cas comme un certificat d'excellence au-delà de ce qu'elle représente vis-à-vis de Steiner ou vis-à-vis des énergies. Et il y a des personnes qui font de la biodynamie pour montrer qu'ils travaillent bien, qu'ils travaillent proprement. Et effectivement, ils sont en biodynamie alors que s'il y avait un label bio plus, ils seraient plutôt en bio plus.
Ouais. Moi, j'ai juste une question parce que dans la biodynamie, dans une émission précédente, on a parlé beaucoup du vigneron paysan. Enfin, c'est beaucoup Olivier Umbrecht qui disait ça. Et on voit de plus en plus arriver des très grands domaines en biodynamie. C'est-à-dire, si on prend Gérard Bertrand, 400 hectares, cases, etc. Est-ce que du coup.
Alors, 400 hectares, vos chiffres datent, si je peux me permettre.
Je crois qu'il est à 700 alors.
Effectivement. Oui, exactement.
Et là, il est passé à 700. Bon, pardon, excusez-moi, il est passé à 700. Mais bon, donc.
Faites peur parce que c'est Monsieur Chiffre chez nous. Alors...
non, mais du coup, voilà. Le rapport biodynamie paysan, est-ce qu'il fonctionne encore sur 700 hectares?
Ah ben non, je suis d'accord avec vous. C'est une autre biodynamie. On n'est plus du tout. Le principe de la biodynamie tel que l'avait annoncé Rudolf Steiner marchait effectivement sur des petites propriétés agricoles en polyculture. Mais j'ai envie de dire, dès lors qu'on choisit la vigne en monoculture, on sort déjà en fait du schéma de Steiner qui voulait une agriculture paysanne. Si effectivement, pour parler des vrais vignerons paysans, il faut considérer des vignerons qui ont d'autres cultures que la vigne. La culture de Gérard Bertrand, alors c'est pareil, c'est un débat terrible parce qu'on peut dire qu'il fait du mal à la biodynamie puisqu'il a une vision presque industrielle, mais en tout cas à très très grosse échelle. C'est une grosse machine. Et en même temps, il permet de populariser la biodynamie en disant, voyez, on peut pratiquer la biodynamie.
Et puis ça fait au moins 700 hectares où il n'y a pas de pesticides, quoi.
C'est ça. Et puis c'est toujours, effectivement,
c'est toujours ça gagné, quoi, entre guillemets.
Ouais. Propre, exactement. Et donc moi, je suis très mitigée sur Gérard Bertrand, d'abord parce que je l'ai interviewé et parce qu'il y croit, très sincèrement, qu'il a une vision très œcuménique de la biodynamie et qu'effectivement, il n'a pas du tout une vision paysanne et il a une manière de fonctionner un petit peu à grande échelle, très très marketing, très communication. Et en même temps, il ne fait pas de mal. Enfin, je ne sais pas s'il fait du mal ou pas à la biodynamie.
Ouais. Après, une des limites aussi à la biodynamie, c'est que l'argument que vous prenez Amoureux, que vous prenez Bertrand, ils disent écoutez, moi, je ne sais pas si ça marche, mais les clients, ils achètent mon truc et c'est la meilleure preuve de. Est-ce que ce n'est pas un petit peu limité comme argument?
Si, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est vraiment les limites de la biodynamie. À partir du moment où ça devient un argument marketing, où le mot biodynamie suffit à être marketing, parce qu'il faut quand même voir. Vous demandez aux consommateurs ce que c'est que la biodynamie, ils seront incapables de vous faire le lien avec Steiner dans 99% des cas. Ils vous diront que c'est du bio plus, comme je le disais il y a deux minutes. Donc c'est effectivement tout le problème. Les gens ne savent pas tellement ce que c'est que la biodynamie. Ils se disent c'est du bio encore mieux que du bio, ce qui est en partie vrai, mais pas seulement. Et ça suffit à faire vendre.
Est-ce que justement un des nœuds du point, parce que la biodynamie est par ailleurs entre guillemets attaquée sur ce côté ésotérique, sur Steiner, critiquable par ailleurs, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les écoles, Steiner-Waldorf.
Oui, alors pardon, il faut peut-être effectivement juste ouvrir une parenthèse sur pourquoi ça fait débat, parce qu'effectivement Steiner a vécu avant la Seconde Guerre mondiale, donc on peut difficilement le taxer de nazisme, mais en tout cas le régime nazi a repris des images de Steiner, a repris des idées. Et c'est tout à fait logique, parce que Steiner parlait quand même de l'être suprême, de l'arien. Alors, c'était pas l'arien tel qu'on l'a vu après sous le nazisme, mais c'est quand même l'idée de l'arien comme race supérieure, avec un gros dénigrement. C'était l'époque, certes, mais enfin, des personnes de couleur, des noirs, qui étaient considérés comme des sous-hommes. Donc, la pensée de Steiner, elle est très, très critiquable par ailleurs, C'est ça qui est problématique. Et puis, il y a la médecine selon Steiner qui se soigne au gui. qui est profondément anti-vax et qui peut poser des problèmes parce qu'effectivement, il préconise le ghee pour soigner des cancers. Steiner, c'est normal qu'il fasse débat.
Bon, il a quand même dit, Steiner, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est un petit peu...
Dis-le.
Il a dit 90% de conneries et 10% d'intuition géniale. Mais globalement, c'est un peu ça quand même.
On peut dire ça. On peut dire ça de beaucoup de gens. Hein.
Oui, mais certes. C'est ça. Et puis, certes. Oui, mais enfin, on parle beaucoup de Steiner de manière générale. Mais enfin,
il faut se méfier aussi de l'anachronisme. Vous le disiez, on est dans une autre époque avec d'autres écrits, d'autres modes de pensée. On lui reproche d'avoir dit que Mars était une planète liquide. Enfin, des choses qui étaient ridicules, mais elles sont ridicules au jour d'aujourd'hui. Et c'est un peu ridicule à nouveau de venir critiquer la science de l'époque au regard de la science d'aujourd'hui. Mais justement, pour
Olivier Umbrecht disait, et Gérard Bertrand m'ont dit la même chose. Alors, je sais si ce sont des vignerons très différents, mais les deux m'ont dit si Steiner avait vécu aujourd'hui, ses idées auraient été très différentes parce que éclairées aussi par la science contemporaine. À l'époque, on n'avait pas du tout ces connaissances.
Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il a eu des intuitions fulgurantes.
Tout à fait.
Sachant que Steiner, derrière, juste pour info, on oublie de le dire, mais en fait, c'est quand même une reformulation marketing de Goethe. Hein, globalement.
C'est ça.
Steiner était quand même connu pour être... En fait, c'était une rock star. C'est un excellent locuteur qui s'est fait connaître, et c'est dans votre article, lors d'une locution de théosophie, on va dire ça comme ça, 1900. Et en fait, c'était une rock star et c'était un très, très bon orateur. Et je pense que c'était un meilleur orateur qu'un penseur, et il a beaucoup... marketer ou penser la pensée de Goethe.
Stefan Zweig parle de lui et dit qu'il avait du mal à... Il fallait qu'il détourne son regard du personnage pour faire attention à ce qu'il disait, parce qu'il avait un tel magnétisme que son regard était pénétrant. Donc c'était effectivement une vedette.
C'était d'un charisme assez exceptionnel. Mais tout à fait, il a repris beaucoup d'idées de Goethe et a, comment dire, étendu la pensée de Goethe sur de nombreux domaines.
Pour conclure, j'aimerais revenir sur cette notion de label que vous évoquiez, parce que ce serait quand même... on a l'impression qu'un vigneron qui veut aujourd'hui... Mettons de côté ceux qui sont vraiment convaincus par l'occultisme de la pensée de Steiner, ceux qui sont pragmatiques et qui veulent faire mieux et montrer qu'ils font mieux que le cahier des charges bio qu'on peut considérer comme déjà bien, mais quand même pas si exigeant que ça. Est-ce que ce qui manque, c'est pas justement un label qui puisse, indépendamment de tout occultisme, valoriser ces pratiques bio++, appelons-les encore une fois comme ça, alors qu'on voit se développer des labels qui sont pas mieux disant que le bio, mais plutôt moins disant que le bio, HVE, par exemple, haute valeur environnementale, qui semblent plutôt un peu des faunés de l'industrie pour essayer de dire « Regardez, on fait quand même un effort. On va quand même pas jusqu'au bio, mais on fait un effort. » Est-ce que c'est pas ce qui manque? C'est quelque chose de mieux disant qui permettrait de sortir de ce débat infini sur biodynamie, occultisme?
Ah bah là, vous prêchez une convertie. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, je l'ai encore constaté là sur le dossier foire au vin que j'ai fait pour Le Monde. Quand on appelle la grande distribution, tout le monde communique sur nous, on est sur l'environnement, notre premier combat, c'est l'environnement. Alors, ils appellent pas ça le bio, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas assez de produits à proposer en bio. Donc, ils appellent ça souvent la naturalité. Alors, ils sont pour la naturalité, et ce mot naturalité va englober plein de choses. Alors, les vins véganes, on sait qu'effectivement, les vins véganes plaisent plutôt, mais il faut encore expliquer que c'est sans protéines animales dans le collage, mais aussi sans traction animale dans les vignes, hein. Donc ça n'a rien à voir avec les pesticides. C'est les vins sans soufre, mais pas forcément bio. Et puis bio, biodynamie, et également, comme vous le disiez, HVE, haute valeur environnementale, et Terravitis, qui certifie le HVE niveau 3. Donc c'est très particulier. Or, je vais encore faire de la pub pour Le Monde, mais Le Monde a sorti il y a quelques mois un rapport qui montre qu'il n'y a pas eu de baisse des pesticides chez les vignerons qui sont HVE. Les vignerons HVE n'ont pas diminué, ça ne fait pas diminuer la dose de
pesticides. Ils ont des panneaux solaires.
donc il y a pas de là-dessus. On voit bien qu'HVE, c'est du greenwashing. On voit bien que ça ne fonctionne pas pour l'environnement. Ça fonctionne très bien en marketing, effectivement, mais on peut pas dire que environnementalement ce soit si intéressant que ça. Ça peut l'être parce que certains travaillent très bien ne veulent pas passer en bio pour d'autres raisons et travaillent très très bien en HVE. Mais on ne peut pas dire que HVE soit proche du bio. Ça, c'est une chose. Et effectivement, de l'autre côté du spectre, si quand on va être plus que bio...
Deux secondes. Oui, est-ce que l'approche commune de mener une agriculture biologique et un label HVE n'est pas finalement quand même un bon signe de propreté, c'est-à-dire que clairement, il y a d'un côté le bio, on parle des produits de synthèse, on se prive des produits de synthèse, et de l'autre côté, HVE, moi j'aime pas trop les gens qui jettent l'opprobre sur HVE, parce que je pense qu'il y a quand même une volonté de travailler différemment, de plus se rapprocher de la nature, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et est-ce que la combinaison de bio et de HVE n'est pas une solution pour aller dans le bon sens?
Oui, enfin c'est toujours mieux d'être HVE que de ne rien être, ça je suis bien d'accord. Le risque, c'est qu'effectivement le HVE éclipse un peu le bio. Il ne faudrait pas effectivement se dire que quand on est HVE, il n'y a pas besoin d'être bio. Moi, il y a des vignerons qui me disent ça et qui sont convaincus. Hein, je ne doute pas de leur sincérité. Quand j'ai un vigneron qui me dit, moi, vous comprenez, en HVE, j'ai l'impression de faire plus attention à l'agroforesterie et à la biodiversité qu'en bio, ou effectivement, dans le cahier des charges bio, on ne parle pas de la biodiversité alors qu'on en parle en HVE. Il me dit, voilà, moi, j'ai l'impression de mieux travailler que le bio. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le bilan environnemental, sur le bilan des pesticides et de la pollution. Mais ça se discute. Et c'est vrai que si on pouvait coupler HVE et bio, ça pourrait être intéressant. Mais pour revenir à la biodynamie, effectivement, c'est ennuyeux qu'on n'ait rien d'autre. Quand on veut être plus que bio, on est obligé de tomber dans la biodynamie qui relève de la foi et de certaines croyances. Parce que si on veut faire un label plus que bio, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on les préparations 500, 501, 502 que vous avez sans doute détaillées, je ne vais pas revenir dessus, on les met dans ce cahier des charges ou on considère que ça relève de la croyance? Vous voyez ce que je veux dire? C'est où est-ce qu'on arrête en fait les pratiques agricoles?
Chers auditeurs et auditrices, j'interviens ici au moment du montage pour vous dire que nous avons eu un problème technique qui a écourté l'enregistrement de notre entretien avec Ophélie Neyman, et pour tout vous dire, je n'ai pas eu le cœur de la rappeler pour lui faire répéter ses réponses à nos derniers échanges. Pardon pour cela. En substance, Ophélie considérait comme peu probable l'apparition à court ou moyen terme d'un label mieux-disant que le bio, et nous en avons terminé en saluant l'initiative TOA dont nous parlait son plus ardent représentant, le vigneron Olivier Paul Morandini, dans l'épisode bonus consacré à TOA et glissé entre les épisodes 46 et 47 de La Terre à Boire. Sur ce point de la transparence des ingrédients présents dans la bouteille, notre invité se montrait plus optimiste, considérant qu'il était probable que cette revendication finisse par aboutir, sinon à très court terme, à l'horizon au moins de quelques années. Rappelons qu'aujourd'hui, le vin n'est pas considéré comme un bien alimentaire et échappe donc à l'obligation de transparence sur les différents ingrédients qui le composent, y compris bien sûr les éventuels intrants qu'il contient. Comme nous n'avons pas sur la bande le moment où nous disons au revoir et remercions notre invité, je m'empresse de le faire ici. Un immense merci Ophélie Neyman pour votre patience et votre disponibilité. Au plaisir de vous lire dans les colonnes du Monde, à l'écran dans Tellement Soif ou en librairie dans un des multiples ouvrages que vous avez publiés. Retour maintenant au studio et à la dégustation.
On est en train de débattre toujours de biodynamie et précisément de la fameuse coulée de Séran, peut-être le vin le plus célèbre de tous les vins biodynamiques.
Nicolas Joly,
celui de Nicolas Joly.
Emblématique, ouais,
emblématique.
Oui,
célèbre enfin, aussi, quand même.
Ouais, pour resituer, ouais. Il est à Savenière, il a 7 hectares.
C'est un chenin.
C'est une appellation monopole. Oui. C'est ça qui est aussi très particulier.
Kurnanski disait que c'était peut-être un des 5 plus grands terroirs de blanc de France, quand même. D'accord. Et je pense que c'est un peu la vérité.
Ce terroir-là, à Coulée de Séran.
Oui, à Coulée de Séran.
D'accord. Ouais, non, c'est... Voilà.
Dans ta phrase, on entend que ce ne serait pas nécessairement parce que Nicolas Joly, parce que biodynamique, ce vin est exceptionnel.
Sur le lieu est incroyable. Et on peut
quand même des grands vignerons pour valoriser des grands terroirs.
Ah oui, il n'y a pas de grands terroirs sans grands vignerons. Pour moi, c'est une évidence. La Bourgogne en est truffée de grands terroirs. Il n'y a pas que des grands vins en Bourgogne. Voilà. Donc il y a des très grands vins, mais c'est toujours fait par des grands bonhommes, des grands vignerons.
Alors moi, je vais dire quelque chose de banal, hein, mais c'est la première fois que je bois ce vin, je le trouve quand même assez magnifique. Hein.
Oui, non, c'est
après, j'aime le chenin.
Enfin, je le disais tout à l'heure, hein, en 2017, là, au Grenier Saint-Jean, j'avais goûté ça et franchement, ça m'avait laissé totalement...
Indifférent.
Pas indifférent, non, même déçu, quoi. Enfin, littéralement déçu. Là, j'ai le plaisir, j'ai un plaisir, un vrai plaisir. Après, Bruno... considère qu'il délivre pas ce qu'il devrait délivrer.
Non, je pense que c'est
pas,
un vin
j'ai qui, pas d'expérience qui, par ailleurs.
Moi, je pense qu'il est pas assez dans son terroir. Enfin, c'est, je crois qu'il y a pas, il y a pas cette cristallinité, cette minéralité qu'on attend sur les grands schistes gréseux de ce lieu. Mmh. Donc, on est plus chenin, un chenin assez solaire
très
et
solaire.
Pas si terroir que ça. Moi, je sens pas ce lien. Je sens plutôt des notes de tête un peu grasse, un peu volumineuse, mmh. Et donc cette espèce d'eau scintillante qui est sur le lieu, qu'on sent quand on va sur le lieu, cette vibration, je la sens pas. Ça reste un bon vin, hein, ça reste un bon vin, c'est très agréable, mais je ne sens pas les forces de la terre qui font jaillir les saveurs dans ce vin. Quoi.
Alors, est-ce que sur le deuxième vin, on va avoir des notes
J'espère.
Est-ce que ça va scintiller?
J'espère.
Est-ce que la voiture a passé aussi
J'espère. Enfin,
pour revenir sur ce qu'Ophélie a lancé sur les vins méthode nature, moi, je trouve que c'est un débat vraiment super intéressant parce que ce label, entre guillemets, est sorti quand même en toute confidentialité. Il y a très peu de vignerons qui ont adhéré pour l'instant. Mais moi, il me semble qu'effectivement, c'est une direction. À partir du moment où on tolère un certain seuil de soufre, hein, parce que si on dit sans soufre, j'ai beaucoup de réticence personnellement. Mais à partir du moment où on dit...
Parce que tu aimes le soufre ?
J'adore le soufre.
Plus on aime le soufre, t'as pensé.
Plus je suis heureux. Non, bien... moi, je suis partie de ces gens qui considèrent que le soufre est un mal nécessaire pour préserver, pour conserver le vin. Pour être sûr qu'au moment où vous ouvrez la bouteille, vous avez du vin et pas autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui considèrent que faire du vin sans soufre, c'est un Graal, sans se préoccuper de faire du vin. Donc voilà, c'est tout le débat autour des vins nature, c'est toute l'éducation que j'essaie de donner à mes clients quand ils me déclarent qu'ils veulent du vin nature, parce que vin nature, ça veut dire vin sans sulfite. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas
alors,
ce
du coup,
qu'on
précise,
attend.
Vin méthode nature, c'est un moyen de sortir de ce débat, souffre ou pas souffre, en fait.
Oui, tout à fait. Dans le sens où, effectivement, le cahier des charges du syndicat des vins nature permet d'avoir deux niveaux, on va dire, de labels. Un label qui effectivement revendique du sans soufre absolument, enfin sans soufre ajouté évidemment, et un autre qui considère que on peut mettre du soufre jusqu'à je crois 30 mg. Hein.
30 mg.
Hein, c'est bien ça.
Mais pour l'instant il n'y a pas de label vin nature. Hein.
Il y a 20 méthodes nature.
Méthode nature.
Mais il n'y a pas le label vin nature.
Non,
aujourd'hui c'est pas contrôlé. C'est-à-dire que les gens peuvent dire qu'ils sont nature. Ça n'est pas contrôlé par un label ni
absolument.
Par une charge.
Mais moi,
ce
que je trouve séduisant, c'est justement cette initiative des vins méthode nature. Ce label qui est encore ultra confidentiel. Très peu de vignerons y ont adhéré pour l'instant, mais qui me semble être une super alternative au bio, qui on a tous, je pense qu'on était tous d'accord autour de la table pour dire qu'effectivement, c'est très laxiste. Et de ne pas nécessairement aller sur la biodynamie qui peut avoir, on va dire, une dose d'ésotérisme que certains refusent, quoi. Donc l'idée, c'est de travailler le plus proprement possible en ayant des vins sains. Et j'aime pas trop le label sain non plus parce que je suis pas en phase avec les vins dits sains, mais enfin les vins propres. C'est toute la problématique des mots et de ce qu'il y a derrière.
On va être aussi dans la nuance des mots. Et j'ai pas trop envie qu'on... Quand on dit que la charge bio est laxiste, on préfère quand même mille fois un vin bio à un vin pas bio. Parce que vin bio, ça veut quand même dire qu'à la vigne, on n'a pas utilisé d'insecticides, de pesticides. Après, il y a le débat sur ce qui se passe en vinification. Mais ne jetons pas le bio avec l'eau du bain de la biodynamie.
Le label bio, enfin, le cahier des charges bio, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement très, très... bonne pour la nature.
Pas sur la vigne, hein. Pas sur la vigne.
Pas sur la vigne.
Sur la vigne, non, non, c'est sérieux. Sur la vigne, c'est très, très sérieux.
Alors,
on n'a pas le droit d'utiliser. Vraiment, c'est très, très, très limité. D'ailleurs, la biodynamie a les mêmes droits au niveau du soufre et du cuivre. C'est-à-dire que,
ah oui, je ne parlais pas tant du soufre et du cuivre,
non,
mais que des produits,
les produits que, autorisés. Les seuls produits qui sont autorisés dans la bio, c'est le soufre et le cuivre. Ah, c'est les seuls, bien sûr. Et donc, dans la biodynamie, c'est les seuls aussi. Donc, pour l'instant, dans la vigne, ça ne pose pas de problème. Quand le cahier des charges a été défini en 2011, enfin 2010 pour le 1er janvier 2011, on n'a pas touché au cahier des charges sur la vigne. Ce qui s'est passé, c'est que on a été impuissant face à la puissance qui était en face, c'était sur les vinifications, parce que il y avait des autorisations sur les techniques. Mais même sur la méthode nature, là, pour l'instant, il y a des techniques qui marquent, c'est marqué, les techniques non brutales, les pratiques non brutales. C'est-à-dire, les techniques non brutales, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la flash détente, c'est brutal ou pas? Est-ce que, voilà, donc il va falloir, je pense, préciser, rentrer dans le cahier des charges. Pour l'instant, il est aussi laxiste, parce qu'il manque de précision dans les techniques utilisées.
Mais le virage que tu mentionnes... C'est marrant parce que tu le présentes de cette façon. Moi, j'avais eu le sentiment que 2011, c'est justement une année de bascule, et pas seulement sur le vin, hein, sur le bio d'une manière générale. C'est le moment où la grande distribution a tellement fait pression pour pouvoir faire du bio qu'on a abaissé les cahiers des charges sur l'ensemble des produits en disant, voilà, pour qu'on trouve un entre-deux pour que la bio d'avant 2011 était plus exigeante, et puis la bio d'après 2011, eh ben, c'est une bio qu'on peut fabriquer... très loin, qui peut avoir voyagé beaucoup, et puis on a abaissé les niveaux de tolérance.
Animale, etc., ça a beaucoup changé.
Je vais compléter avec un papier d'un vigneron qui s'appelle Frédéric Munier, du domaine Munier, en Bourgogne, et qui parle, lui, donc là je suis encore sur la bio, hein, des insecticides qui sont autorisés en bio. Le pyrèthre et la roténone sont des insecticides naturels extraits de plantes tropicales. Ils sont donc autorisés en agriculture bio. Ce sont pourtant des insecticides aussi actifs que les autres et ils tuent les insectes, utiles ou nuisibles, sans discernement particulier.
Merci Romain, c'était effectivement le sens de ma remarque sur le bio.
Le cuivre est le principal moyen de lutte bio et biodynamique contre le plus grave danger menaçant nos vignes, le mildiou. Mais on sait que le cuivre s'accumule irréversiblement dans les sols. Bon, après, il y a un autre débat.
C'est pas prouvé.
Voilà. Le divin l'autorise aussi.
Il y a un autre débat sur le cuivre, mais cette idée des insecticides qu'on autorise parce qu'ils sont d'origine naturelle, oui, d'accord, ils sont d'origine naturelle, certes, mais... Ils détruisent les...
Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un débat sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Ouais.
Tu vois, oui. Bertrand, qui assiste à nos débats, brûle d'intervenir. Salut Bertrand de la Grosse Bouffe.
salut
Monseigneur Bertrand de la Grosse Bouffe.
Salut Romain. Non, mais simplement, effectivement, sur le cahier des charges bio, il y a des trucs effectivement qui, comme tu le disais... sous prétexte qu'ils sont d'origine naturelle, sont tout aussi violents que des produits de synthèse.
Par exemple, c'est naturel.
Non, mais c'est...
Oui, tout à fait.
C'est ça, mais après, bon, le débat, il est un peu sans fin. C'est-à-dire, pourquoi utiliser le soufre qui peut être, qui, dans 99% des cas, est un dérivé du cracking du pétrole, qui n'est pas vraiment naturel. Enfin, bon, c'est effectivement un vaste débat, le cahier des charges des bio. Après, je crois que la naissance aussi du truc, donc le basculement dont Bruno parlait à 2011, moins la GD qui poussait, moi j'avais plus compris que c'était aussi des négociations au niveau européen et que il y avait plein de pays qui avaient leur mot à dire et que pour des raisons climatiques évidentes, tout le monde avait des problématiques différentes et donc voulait dire mais moi j'ai besoin de tel produit. Et bah quand tu fais un compromis à 27, forcément c'est
configuration de production. L'Allemagne avait
une
configuration de production qui était très différente de nous et ils avaient un label bio qui était très différent du nôtre. On est plus passé au label bio allemand d'ailleurs, hein.
Quand tu harmonises à 27, forcément tu fais des compromis et donc tu as tendance à niveler par le bas. Mais est-ce qu'un nivellement par le bas, ça vaut pas mieux que pas de nivellement du tout? C'est tout ce que disait Ophélie tout à l'heure.
Buvez propre.
Non, mais d'où l'intérêt bio, d'aller voir son vigneron et d'avoir un engagement dans ce qu'on achète. Encore une fois, l'acte d'achat est consommateur. Et encore une fois, c'est mieux d'aller chez un caviste que d'aller en grande distrib, parce que le caviste, si vous lui faites confiance, il vous expliquer que même si lui il est bio, même si lui machin, lui il travaille comme ça. Il n'est pas bio, mais on peut ne pas être bio et travailler très très bien, encore une fois, très proprement. Et la qualité du vin. Donc, les labels, c'est vrai pour 80% des choses, mais ça ne remplace pas le fait d'aller voir un caviste qui va vous expliquer intimement qu'il a lui aussi sa passion, qui n'est pas passé à travers la biodynamie. Ou,
merci,
mais, mais c'est vrai. Et du coup, voilà, ça va vous permettre de lire à travers les signes runiques de la biodynamie ou des labels qui sont aussi sombres et complexes que parfois l'occultisme de la biodynamie. Et donc voilà, je pense qu'il faut, voilà, faut faire confiance au caviste, faire confiance au vigneron.
Et puis surtout, je pense, le problème qu'on a, c'est qu'on a tellement de générations, c'est la deuxième génération où on mange tous les jours à la cantine, partout, des choses très médiocres. Les gens n'ont plus l'habitude de goûter véritablement, de percevoir la vraie qualité, parce que c'est ça qui fera le vrai label. Le vrai label, à la fin, c'est quand quelque chose vibre des saveurs profondes, etc. Et que ça nous donne... c'est comme vous mangez des haricots verts qui sortent du jardin, qui sont très bons, qui n'ont pas été traités, etc. Vous les mangez, vous sentez tout de suite qu'il y a une ivresse. Eh bien, il faut retrouver cette ivresse dans tous les produits. Et le vin, il y a plein de vins aujourd'hui qui ne donnent aucune ivresse. Alors, à part l'ivresse de l'alcool, mais très souvent, on est dans la saveur pornographique, on n'est pas dans la saveur profonde. Il n'y a pas de scintillance, il n'y a pas de magie. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut retrouver, je pense. C'est au-delà du label. Il y a un moment donné, les gens qui travaillent bien, les vrais vignerons, c'est ça qui tendent. Et la question de tout à l'heure que vous aviez, dont vous avez parlé, sur l'histoire de pourquoi les vignerons sont plus, il y a plus de biodynamistes vignerons. Mais c'est aussi parce que, justement, elle parlait du terroir, mais aussi parce qu'il y a une telle quête, après les années 70, où le vin a sombré, dans les sols étaient morts, les vignes, les vins, il fallait les travailler pour arriver à sortir un vin correct, il fallait travailler avec de la technique, qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait plus, et les vins n'avaient plus de magie. Et dans le vin, s'il n'y a pas de magie, c'est fini. Le vin disparaît. Et là, c'est aussi pour ça qu'on a cherché, et il y aurait eu d'autres pratiques qui seraient arrivées, elles auraient été prises comme la biodynamie.
Bruno, tu parlais de vrais vignerons, y en a un qu'on peut appeler, qui est disponible pour nous répondre, et qu'on va appeler tout de suite. C'est un vrai vigneron, et il est podcasteur en plus. Bonjour Philippe Viette, comment ça va ?
Eh ben, ça va bien.
Voilà. Philippe, on t'appelle ce soir dans un cadre précis, qui est celui d'une double émission sur la biodynamie. Toi, tu t'es lancé, ça va être ton troisième millésime, si je ne me trompe pas, 2021 va être ton troisième millésime. Absolument. Tu as fait le choix d'emblée, dès le début, de travailler en bio. Donc 2021 va être l'année où tu vas être certifié, je pense. À moins que ce soit 2022.
Plutôt 2022.
Bon, voilà. 2022. Donc, tu as fait cette démarche d'être certifié bio. Ça prend toujours un peu de temps. Est-ce que... comment vois-tu la biodynamie? Est-ce que pour toi, c'est une option que tu as envisagée, que tu as écartée, que tu envisages pour l'avenir? Quel est ton regard de jeune vigneron qui résolument a décidé de faire les choses proprement? Et de ne pas partir dans la chimie, mais plutôt dans un respect du terroir, une expression aussi du terroir. D'ailleurs, tes vins sont salués pour ça. Quel regard tu portes sur la biodynamie comme pratique de vigneron ?
C'est une question délicate, parce que sur la biodynamie, je porte un regard sceptique.
Est-ce que déjà tu avais un regard en tant que dégustateur avant d'être vigneron sur les vins en biodynamie, un a priori positif, négatif, neutre?
Alors en fait, j'ai un a priori qui est plutôt positif en termes de résultat final, en fait, sur au niveau dégustatif. Alors évidemment, tous les vignerons en biodynamie font pas des grands vins ou font pas toujours bons. Il se trouve qu'en fait, sur des grands domaines en fait qui sont réputés en biodynamie, j'ai eu l'occasion ou la chance de déguster des grands vins. La question est de savoir quel est l'apport en fait de certaines pratiques sur la qualité de ces vins. Il y a deux choses en fait dans la biodynamie. En fait, on parle des tisanes, la prêle, la consoude, la valériane. En fait, qui sont pas des pratiques biodynamiques. En fait,
tu les pratiques, par exemple, tu les appliques, les tisanes?
Non, ça je les pratique pas. Ce sont des pratiques d'anciens. On sait tout à fait en fait que la prêle en fait a une vertu stimulante sur la vigne pour stimuler ses défenses naturelles, de la protection. On sait que la valériane va avoir des vertus réparatrices ou protectrices contre le gel, par exemple, sur la plante avant et après le gel, ou la consoude, je sais plus trop. Voilà, ça c'est pas de la biodynamie en fait. Les anciens le faisaient avant. On verra si j'ai envie d'expérimenter de telles choses. Il faut savoir que c'est consommateur de temps. Donc pour l'instant, enfin, je me débat avec 5 hectares en bio. Et cette année, en fait, ça a été particulièrement rude, notamment sur la gestion de l'herbe. Voilà. Après, en fait, sur l'autre partie, sur toute la partie un peu prépara, les 501 et tout ça, les 500, 501, je reste assez dubitatif. J'ai du mal, en fait, à me projeter, en fait, sur une préparation, en fait, de cornes de bouse qu'on enterre, et puis, en fait, qui est reliée, en fait, la corne de la vache est reliée, en fait, au ciel.
Donc c'est la dimension occulte, un peu ésotérique, ouais, qui te met à distance.
C'est un peu la dimension panoramique, en fait, qui me pose un souci. Et en fait, si je mets en œuvre une pratique, c'est parce qu'en fait, avant, on m'a démontré, on m'a prouvé par des faits, par des résultats tangibles, qu'au bout, en fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de mieux. Or, en fait, on manque de données tangibles, chiffrées, sur ces pratiques qui relèvent plus de l'homéopathie qu'autre chose. Je crois déjà peu à l'homéopathie, en fait, pour l'homme et dans la médecine en général. Pour l'instant, en fait, je reste peu convaincu par ces pratiques qui, au mieux, me semblent, pas prouvées, ou alors, au pire, farfelues, quoi.
Est-ce que c'est un débat, parce que les vignerons, souvent vous discutez, vous échangez entre vous, tu as, j'imagine, déjà eu l'occasion de discuter avec d'autres vignerons biodynamistes?
Oui, en fait, moi j'ai des amis, en fait, je fréquente pas mal de gens qui sont dans des sensibilités diverses, je fréquente même des gens qui sont en conventionnel.
Mon Dieu.
Et qui font des très bons vins, ouais. Et qui sont même parfois plus respectueux que certains bio ou certains gens qui disent être nature. C'est les mêmes questions qui se posent sur le côté un peu ésotérique, le côté manque de capacité à factualiser en fait les choses. Moi, ce qui me pose un problème, c'est on fait des préparats dans des cornes de vache, on fait d'autres préparats dans des vessies de cerf ou dans des je sais pas quoi ou dans des crânes d'animaux morts. Ça ressemble un peu, enfin c'est ma sensibilité, ça ressemble à du vaudou. Et puis en fait je sais pas, est-ce que en fait moi ce que je pense, c'est que la biodynamie certes a des effets. Je pense que surtout l'effet majeur, c'est l'extrême attention à son végétal, la connaissance profonde de son végétal, et le fait aussi, en fait, de limiter la chimie.
Encore plus que la pratique bio.
Encore plus que la pratique du bio. Voilà, après, je veux dire, les doses de préparat qui sont pulvérisées, sont infimes. La dynamisation de l'eau, la mémoire de l'eau, enfin voilà. Après, je veux dire, le travail qui est fourni, la quantité de travail qui est fournie par les vignerons qui sont en biodynamie, elle est remarquable, elle est gigantesque.
C'est là que se fait la différence, en fait.
Je pense que la différence se fait là. Et après, je pense que en fait, voilà, on parlait d'Ophélie Neyman là tout à l'heure. Tu faisais allusion à Ophélie Neyman.
Avec qui on vient de discuter, ouais.
J'avais lu avec attention en fait la série de d'articles qui étaient parus dans Le Monde en début d'été. Et effectivement, j'ai tendance en fait à plutôt être du même avis que quelqu'un comme Patrick Baudouin. Et en fait, ce qui est vrai, c'est très difficile, je pense, de dissocier en fait la pratique biodynamique de la pensée anthroposophique. Et ça me pose un problème parce que on sait que voilà, il y a des dérives sectaires qui peuvent avoir lieu. Je rencontre beaucoup de gens où je m'aperçois en fait qu'il y a beaucoup de biodynamistes et de nature qui adoptent des positions complotistes, anti-vax, anti-pass sanitaire, un déni de science, un rejet de la science. Et moi, je me pose des questions, quoi. Et quand Patrick Baudouin dit, voilà, en fait, quand certains de ses amis vignerons, qui sont des grands vignerons, disent, moi, je pratique la biodynamie, mais j'adhère pas du tout à l'anthroposophie, ben, je suis tout à fait d'accord avec Patrick Baudouin quand il dit qu'ils sont dans un déni. Ils sont dans un déni de réalité. Parce que, en fait, ne serait-ce que l'association Déméter, en fait, qui est l'organisme certificateur pour la certification biodynamique, reverse tous les ans à la société d'anthroposophie une manne assez d'argent assez substantielle.
On parle de 100 000 euros.
Voilà, c'est quand même pas mal, mais enfin voilà, enfin c'est quand même une belle somme. Et ils mettent leur dîme là-dedans, quoi. Et enfin, c'est des choses. Enfin moi, ça me.
Oui.
Voilà, ça reste des croyances en fait. Ce sont des croyances ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, la corne de vache qui est reliée en fait au ciel, machin. Bah pour moi, oui, je serais tenté de dire que c'est une croyance. Tout comme, bah voilà, croire en Dieu, croire en Allah, croire en Bouddha, bah, ce sont des croyances.
Est-ce que c'est un des points vers lequel on est arrivé aussi avec, dans nos conversations avec Ophélie Neyman, est-ce que un label bio qui serait mieux disant et qui serait une alternative quelque part à la biodynamie qui est perçue par beaucoup de consommateurs et même par des vignerons comme une forme de bio plus, un bio qui serait plus exigeant, notamment en vinification, parce que le bio... à la vigne est assez stricte, mais à la vinification permet quand même beaucoup plus de choses. Est-ce que toi, ça t'intéresserait, puisque c'est ta démarche d'être propre et respectueux du terroir et des vins, et d'aller plus loin et de faire certifier si un tel label existait, qui soit pas teinté d'occultisme.
Tout ce qui s'affranchit, tout ce qui nous permet en fait de nous affranchir de la chimie de synthèse est une bonne chose en fait. Donc oui, je serais tout à fait prêt à rentrer dans un chemin technique. Après, il faut être clair sur ce qu'on appelle un intrant ou sur ce qu'on appelle un non-intrant. Si un jour on franchit, en fait, si certains organismes réfléchissent en fait à aller plus loin dans les pratiques bio.
A priori c'est pas au programme hein. On en a parlé avec Ophélie, mais on se disait que c'est ça le problème, c'est que la biodynamie est la seule alternative
on parlait du vin méthode naturelle en fait.
Et après on a dérivé sur le vin méthode nature. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu aimerais envisager?
La certification méthode nature, en fait, je pense qu'il va y avoir un problème avec ce label. Pour l'instant, il n'y a aucun organisme de contrôle. Hein. Donc, il y a une jolie charte en fait qui a été mise en place.
C'est la première pierre
qui a été mise en place par Eric Morin et puis Antonin et puis tout ça.
Yomi Aminategui.
Mais en fait,
que toi qui arrives à le dire, c'est pas la peine de faire mal.
Je fais le mal. Hein.
Voilà, moi j'y arrive pas. Quand on emploie le mot camisole chimique en fait pour désigner le SE2. Enfin, il faut arrêter, il faut commencer à être sérieux. Et puis bon, je pense que c'est bien aussi de mettre une camisole chimique autour du goût de souris, par exemple. Ça rendrait certains vins naturels un peu plus buvables. Et puis ça permettrait peut-être aussi à certains cavistes, notamment à Paris, d'avoir à essuyer le mécontentement de certains de leurs clients. Voilà. Mais voilà, après, oui, tout ce qui nous libère de la chimie de synthèse est un pas en avant. Tout ce qui nous permet aussi, en fait, de réduire, en fait, encore une fois, les doses de cuivre, c'est tout à fait bienvenu. Encore que je reste quand même assez positif sur le cuivre, parce qu'en fait, quand je vois, en fait, les quantités de cuivre, en fait, qu'on met dans la vigne, que certains ont mis dans la vigne cette année, y compris moi, je me dis, je me débrouille pas trop mal, parce que bon, alors certes, j'ai dû faire 12 ou 13 traitements cette année, c'est beaucoup. mais j'ai quand même réussi, en fait, à rester
dans la norme.
En dessous des 4 kilos hectares. Je connais des gens, je connais des bio qui ont explosé les 6 kilos. Hein. Je me suis pas trop mal débrouillé. Et puis, quand vous commencez, en fait, moi, c'est ma troisième campagne. Je vais mettre encore des années à maîtriser mon végétal, quoi. Mmh. C'est-à-dire que vigneron, c'est de l'observation, c'est un dialogue avec le vivant. Comment peut-on se lancer en biodynamie alors qu'on n'a jamais pratiqué? Et alors qu'on ne maîtrise pas du tout son végétal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens qui un jour ont eu le déclic pour la biodynamie, c'est des gens qui ont longtemps pratiqué le bio et puis qui avaient une certaine connexion au vivant, mais qui avaient une parfaite maîtrise de leur végétal. Et qui ont franchi ce pas par conviction. C'est des paliers qu'on franchit. Et puis moi, en fait, je suis qu'au début de ma pratique. Les pratiques, elles vont forcément évoluer. Elles évoluent au gré des rencontres. Elles évoluent aussi au gré des aléas climatiques. Des années comme celle-ci, bah forcément, ça fait réfléchir. Et oui, l'idée, c'est de s'affranchir un peu de tout ce qu'on nous propose là pour faire des vins qui sont lisses, quoi, qui sont standardisés.
Bon, ben, voilà. Merci pour cet éclairage qui vient un peu conclure les différents avis qu'on a pu recueillir sur le sujet. Merci Philippe, bon millésime. Et puis quand il est prêt, tu viens nous faire déguster tout ça comme on en a.
Oui, j'aimerais bien pouvoir l'habitude. Assister à un enregistrement en live.
Bien sûr, participer comme d'habitude.
Très longtemps.
Salut Philippe,
bye bye.
Prenez
bonne vendange. Merci toi aussi.
Merci à vous.
Ciao. Bruno, pour nous, tu es un peu le spécialiste du vin grec. Tu sais ça, parce que quand tu es venu la première fois dans la Terre à boire, tu nous as tous scotchés avec un vin qui s'appelle Pur.
De Santorin,
qui était un truc assez exceptionnel, moi, qui m'a laissé un souvenir assez étincelant. Aujourd'hui encore, tu as décidé de nous étonner avec un vin grec, et là, c'est un rosé.
C'est un rosé, oui. Donc, le rosé a une image un peu particulière. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est à la mode, mais il y a aussi une critique acerbe sur le rosé. Carmé, dans les brefs de comptoir, on lui demande ce qu'il pense du rosé. Il répond, il y a des globules rouges, c'est pour l'oxygène. Des globules blancs, c'est pour les anticorps. Des globules rosés, je sais pas. Voilà. Donc, oui, c'est une image un peu de non, ben, de sous-vin. Pourtant, il y a des grands rosés, surtout depuis quelques années. Enfin, il y a toujours eu des gens qui ont fait des grands rosés, à Bandol notamment, Domaine Tempier, etc. Mais la grosse surprise, c'était justement en Aoussa, où j'étais donc au mois de mai. Ça fait longtemps que je commercialise ce vin. J'ai accompagné ce vigneron justement pour qu'il aille vers le bio et ensuite il a franchi le pas vers la biodynamie. Donc ça a été un des premiers biodynamistes de Grèce. Donc dans la Naoussa, la région donc au-dessus de Thessalonique, on est en Macédoine, on est sur des marnes schisteuses, cépage Xinomavro. Le cépage, c'est leur pinot noir, hein, c'est vraiment. Et la région de Naoussa est considérée comme la Bourgogne en rouge de la Grèce. Et donc ce cépage qui est très élégant, très profond, en fait, c'est par vraiment une surprise totale, c'est un accident. Il n'avait pas assez de vin en 2007, de vin rouge, pour remplir ses barriques. Et il a dit, bah tant pis, je sacrifie du rosé pour remplir mes barriques, parce que les fûts, bah, il faut les remplir, parce qu'il ne faut pas laisser les fûts à sec. Et donc, il a rempli avec du rosé. Et à la fin, il a goûté son rosé. Et là, il tombe par terre. Et il m'a envoyé un échantillon en me disant, qu'est-ce que t'en penses? On est tous tombés fous de ce rosé. Il avait même gardé une barrique de 2007 en élevage un peu plus long. Et on les a vendus il y a quelques temps. C'était absolument dingue, du 2007 en rosé. Incroyable, un vin qui avait 13 ans. Là, malheureusement, c'est du 2020 parce qu'il n'a plus rien en stock. C'est catastrophique, il se fait arracher son rosé. Et c'est un vin qui a de la profondeur, qui est vraiment. Alors, c'est étonnant pour un vin grec parce qu'on s'attendrait à avoir quelque chose de très méridional et en fait, on est sur l'eau. Hein, on sent le frétillement, la fraîcheur, mais en même temps, sans oublier le volume. C'est-à-dire qu'on a du volume, on a du jus, on a vraiment de la longueur en bouche, on a de la complexité de saveur. C'est un cépage très particulier qui a des saveurs qu'on ne connaît pas bien sur nos rouges en France, nos cépages rouges. C'est-à-dire qu'on est entre des arômes un petit peu cranberry, goyave, un peu truffe noire, très légèrement, et des poivres. Et c'est des vins de grande complexité. C'est le rosé le plus complexe qu'on a dans les rayons aujourd'hui, chez nous. Et on fait un tabac avec. Et le vigneron s'appelle Timiopoulos, Apostolos Timiopoulos.
Il est grec, non?
Oui,
il n'était pas dans Tintin, non?
Non, Pas-de-Calais. Non, et en fait, ce vigneron-là est devenu une célébrité aujourd'hui dans la région, et même en Grèce, et un peu partout d'ailleurs, parce qu'il exporte beaucoup. Et il est devenu, d'ailleurs, il a repris des vignes un peu autour, parce qu'il manque de vin. Voilà.
Je me permets d'intervenir.
Oui, Bertrand. C'est Bertrand qui n'intervient que pour dire des choses intéressantes, c'est ça qui est bien. Il reste là et hop, il dégaine.
C'est un vin qui est assez surprenant parce que il est. Je suis pas du tout spécialiste de vin grec, donc j'aurais du mal à le situer dans le contexte. Mais
avant d'être un vin grec, c'est un vin.
Voilà, juste en tant que vin rosé, ce qui est vraiment impressionnant chez ce vin, c'est qu'il est. Il donne une impression de légèreté, de gourmandise, de simplicité. Puis dès qu'on s'intéresse un peu plus, on se dit ah, tiens, c'est bon ça. Et puis après, on s'intéresse. Et puis on s'aperçoit effectivement d'une diversité aromatique assez impressionnante, d'une profondeur, d'une longueur en bouche. Et c'est vrai que plus on s'y intéresse, plus il est intéressant. Et on se rend compte à la fin de la réflexion que en fait, c'est un vin hyper intéressant. Alors qu'il en de prime abord, on le trouve. Voilà, et que vraiment, on a vraiment très soif après la première gorgée.
Ouais, c'est une espèce d'équilibre entre spontanéité et complexité, en fait. Si on reprend ce que disait Gabriel Lépouzé sur l'interprétation, c'est vrai qu'il déroule un film, et à chaque fois qu'on y revient, il raconte une histoire un peu différente.
Ouais.
Et dans le temps, donc c'est pas un court-métrage, c'est un long-métrage.
Ouais.
Et, mais c'est Gabriel qui dit ça, moi je... Il est expert au CNRS, hein. Je reprends ces termes.
Mais, en fait,
mais c'est vrai que il raconte à chaque fois quelque chose de nouveau.
Moi, j'aime beaucoup la phrase de Carmet là-dessus, c'est une de ses citations qui dit j'aime les vins qui laissent la bouche sans emphase et pleine de propreté. Et je trouve que ça s'attribue bien à ce vin-là parce que
il me faut quelques minutes là pour réfléchir à propos. Là.
Il n'est pas dans la démonstration.
Entre autres.
Il vient, et il vient dans la simplicité. Mais derrière, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a ce volume qui arrive. Cette complexité, et on se dit, mais c'est incroyable. Et en fait, on oublie que c'est un rosé. Très vite, très très vite.
Moi, à l'aveugle, pour moi, c'est un blanc direct. C'est un rosé.
Voilà,
hein.
Voilà, c'est vraiment surprenant. Et c'est un vin qui reste à un prix extrêmement modeste, parce que c'est 18 euros dans les rayons quand même. C'est pas. Et en fait, du coup, on a des gens qui traversent Paris, qui nous en commandent tous les ans, arriver et disent, on veut absolument le rosé d'Oxino Mavro. Voilà.
Écoute, maintenant, tu vas avoir des gens qui viennent et qui disent « On t'a entendu parler de... !» Voilà. Comme avec Pure. Tu m'as dit que tu avais eu des clients qui venaient parce qu'ils avaient entendu parler.
Énorme. Ah, et en fait, la biodynamie s'exporte même en Grèce, puisque le premier domaine, c'est Sklavos, je crois, en Céphalonie.
C'est vrai que c'était une émission sur la biodynamie au départ.
Voilà. Ouais. Et ensuite, je suis.
Hein, oui, c'est bien. Merci, Bruno, de nous ramener sur le sujet.
Biodynamopoulos.
Et en fait, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de domaines en biodynamie. Dans la sélection que j'ai pas mal de vins grecs en biodynamie aussi qui sont partis dans l'aventure, des vins bio, des vins biodynamistes. Voilà.
C'est un vin magnifique pour terminer ce sujet. Si je dois résumer les vins qu'on vient de boire, la coulée de Serran, Nicolas Joly, 2018, Savenière. Et donc, le rosé de Xino Mavro, Apostolos Timiopoulos, c'est le nom du vigneron. C'est un millésime 2020. C'est donc un vin rosé assez sublime étonnant.
Xino Mavro qui signifie...
C'est le nom du cépage, donc.
Voilà. Mavro, c'est noir. Hein, ça veut dire noir. Xino, c'est entre amer et acide. On ne sait pas trop. C'est difficile à traduire. En fait, ça veut dire que c'est un cépage qui a du punch. Souvent en rouge, ça a fait des vins pendant longtemps. Quand ils étaient en chimie, ils faisaient des vins un peu surmûris avec des tanins un petit peu rudes, rustiques. Aujourd'hui, on a des Xino Mavro en rouge qui sont très élégants. Le fait d'avoir retravaillé les sols, décompacté les sols, et ensuite de cueillir à juste maturité, c'est-à-dire comme les bourguignons, c'est-à-dire que pile poil, pas trop mûr, on arrive à avoir des tanins beaucoup moins secs et puis surtout des élevages plutôt en foudre qu'en barrique. C'est un cépage qui peine avec la barrique, c'est trop puissant pour lui comme élevage. Donc on est plutôt allé sur les foudres. Et là, on arrive à avoir...
Donc un conditionnement plus grand, c'est ça, le foudre, voilà. C'est plus de...
Moins de violence de contact avec le bois, moins de violence avec...
Contact tannique.
Voilà. Des élevages plus longs, des écarts de température moins élevés pendant l'élevage, grâce au volume. Et en fait, on arrive à avoir des choses... Des chais aussi très hydratés. Ils avaient des chais qui étaient très très secs. Donc on avait une altération des tanins, des phénols pendant l'élevage, ce qui fait qu'on avait des tanins secs. Ils disaient que c'était le goût du xylomavrou, mais je disais c'est une altération d'élevage. Donc en fait tout ça a été modifié tout doucement et on arrive à avoir aujourd'hui des choses très très fines, très élégantes.
Des vins sublimes, un sujet intéressant et multiple dont je ne suis pas sûr qu'on ait complètement fait le tour. Le principal, c'était le bonheur de se retrouver. J'espère que ça a été le même plaisir pour vous de nous écouter. Suivez-nous sur les réseaux. La Terre à boire est de retour, 5e saison. On va essayer d'être régulier cette année. On a un peu moins de contraintes Covid. On va pouvoir se réunir une fois par mois pour enregistrer 2 épisodes. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour en savoir plus sur la biodynamie, notamment, il y a tous les articles du Monde, assez passionnants à lire, je dois le dire. Il y a le livre de Willy Kieser, que je veux saluer une nouvelle fois, Le vin à la biodynamie manifeste, qui a le mérite de tout condenser dans une centaine de pages de propos très clairs, très simples, argumentés, avec des chiffres, et ensuite une autre centaine de pages avec que des conseils de domaines qui pratiquent la biodynamie. Voilà, on se retrouve dans une paire de semaines pour continuer à parler de vin, à déguster des vins et puis à parler de tout ce qui tourne autour de ce sujet magique, le vin. Au revoir Bruno Cognou, merci encore une fois de nous avoir accueillis ici chez Philovino, entouré de toutes ces magnifiques bouteilles et de nous avoir proposé ce vin grec à nouveau. Tu sais, c'est notre spécialité maintenant, quand tu reviens dans l'émission, vin grec, hein. Obligatoire. Hein.
Non, nous ici, c'est pas de frontières géographiques, mais des frontières philosophiques.
Je savais que quand on lui a dit, Bruno, est-ce qu'on viendrait enregistrer un truc chez toi? On va parler de biodynamie. Et là, le côté spirituel et philosophique, tout de suite, il a dit oui, je pense que c'était pile le sujet qu'il fallait pour venir ici. Allez, je vous embrasse tous. Merci, il est tard. Bonne nuit. À très bientôt.
À tous.
Allez, ciao. Bye.